9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Merci d'écouter RFI. Et tout de suite, c'est le journal présenté par Xavier Besson.
Et à la une ce matin, ce bras de fer au sommet de la justice en République démocratique du Congo, où le procureur général près de la Cour de cassation accuse le ministre de la Justice de détournement de fonds autour d'un contrat de construction d'une prison. Explication à Kinshasa dans un instant. Dans ce journal également, la CDAO qui fête son anniversaire, 50 ans pour la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Pour quel bilan? Réponse tout à l'heure de l'économiste Carlos Lopez. Nous serons aussi au Mozambique qui lance des procédures pour récupérer ses biens et œuvres pillées lors de la colonisation. Et puis dans une dizaine de minutes, le journal des sports avec Victor Missistrano pour parler football de la Guinée qui annule ses deux prochains matchs amicaux et basketball avec le Camerounais Pascal Siakam et son club d'Indiana qui se rapproche de la finale de la NBA. On en est donc au stade des interrogations en République démocratique du Congo. La justice s'interroge sur le marché de construction d'une prison à Kisangani, la grande ville du nord de la RDC, et se questionne en particulier sur le rôle du ministre de la Justice, Constant Mutamba, et sur de possibles détournements de fonds. Pour aller plus loin, l'Assemblée nationale a été saisie pour lever ou non l'immunité du ministre. C'est une commission de députés qui se penche en ce moment sur le dossier à la demande du procureur général près de la Cour de cassation. Le ministre, lui, parle de vengeance politique. À Kinshasa, Pauline Azidi.
S'il affirme que le procureur ne le verra jamais devant lui, le ministre de la Justice a tout de même été convié devant la commission pour s'expliquer sur ce marché passé de gré à gré pour la construction d'une prison à Kisangani. Un contrat de 29 millions de dollars avec la société Zion Construction qui pose question. Pour Constant Mutamba, il s'agit d'une machination et il n'a pas mâché ses mots contre le procureur. Dans une allocution ce lundi, il a accusé Firmin Vendé d'être dans le même groupe que, je cite, les kabylistes, employant le terme de mafieux. Celui qui fait l'objet d'enquête ne peut pas enclencher une action contre le ministre de la Justice, a-t-il ajouté. Constant Mutamba fait allusion à une affaire qui touche le procureur général. En novembre dernier, en effet, en tant que garde des Sceaux, il avait demandé l'ouverture d'une enquête autour de l'achat d'un immeuble à Bruxelles par Firmin Vendé. Et le bras de fer entre les deux hommes n'est pas terminé. Après les auditions, la commission doit rendre son rapport et d'ici la fin de la semaine, la plénière de l'Assemblée nationale devrait voter l'autorisation ou non de poursuite à l'encontre de Constant Mutamba. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
RFI, 8h32 à Yaoundé, le Cameroun, où l'avocat Emmanuel Nchalaï se réjouit et se désole à la fois. Avocat qui est spécialisé dans les actions contre les leaders séparatistes anglophones en exil. Il se réjouit de l'annonce de la mise en examen le mois dernier par la justice américaine d'Eric Thanos Tatto, un an et demi après son arrestation. Eric Thanos Tatto qui est donc désormais sous coup de poursuite pour complot en vue de fournir un soutien matériel au groupes armés des régions anglophones, mais l'avocat se désole que la procédure ait pris autant de temps.
Je le regrette profondément et c'est un problème dont j'ai parlé aux agents qui suivent le dossier et je leur ai dit que c'était inacceptable. J'ai dû porter plainte contre le gouvernement fédéral et demander à un juge fédéral d'ordonner aux agences d'accélérer les enquêtes et les arrestations. Je pense que des milliers de vies auraient pu être sauvées si d'autres leaders comme Choluka Sayaba avaient été il y a 4 ans. Cependant, mieux vaut tard que jamais. C'est vrai que ce sont des affaires internationales complexes, mais il est regrettable que des vies innocentes au Cameroun ne soient pas une priorité pour les autorités occidentales aux États-Unis ou en Europe. Cette crise anglophone, c'est comme un serpent à plusieurs têtes. Si on coupe les têtes, le corps finira par mourir. Or, des têtes qui financent et nourrissent l'idéologie sont pour la plupart à l'étranger, mais les pays hôtes ne s'intéressent pas vraiment à leur cas et le conflit continue de couver.
L'avocat camerounais Emmanuel Nchalaï est joint par Amélie Tulé. Et pour rappel, Choluka Sayaba, évoqué à l'instant, c'est un autre leader séparatiste anglophone qui avait été arrêté en Norvège au mois de septembre l'année dernière. En Norvège où il est poursuivi pour, je cite, incitation à commettre des crimes contre l'humanité. On parle maintenant intégration régionale, libre circulation, monnaie unique en Afrique de l'Ouest. C'est aujourd'hui l'anniversaire, le cinquantenaire partenaire de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, fondée à Lagos en mai 1975. 50 ans de réalisation, mais aussi plus récemment de désillusion, estime ce matin Carlos Lopez, économiste bissau-guinéen, professeur à l'Université du Cap en Afrique du Sud.
L'organisation avait brillamment entamé son parcours, s'imposant pendant un temps comme le modèle le plus avancé d'intégration régionale en Afrique. La CEDEAO a été pionnière en matière de libre circulation des personnes, de levée des barrières frontalières et surtout d'intervention collective dans des contextes de crise sécuritaire comme au Libéria et en Sierra Leone. Pourtant, au fil du temps, la CEDEAO a perdu en cohérence sur les grands dossiers politiques et désormais aussi économiques. Le projet de monnaie unique, par exemple, l'ECO, en est venu à symboliser la lente désintégration du consensus. C'est une perte de cap, et cette perte de cap a conduit à une érosion progressive de la légitimité de la CEDEAO, amorcée dès le retrait de la Mauritanie, aujourd'hui aggravée par la défection ouverte de trois États, le Burkina, le Niger et le Mali. C'est le moment vraiment que la CEDEAO puisse se renouveler, ou bien elle cessera, pas nécessairement d'exister, mais de compter.
Et Carlos Lopez, économiste, joint par Claire Fage, et ce bilan de la CEDEAO, on en parle tout au long de la matinée, et aussi sur notre site internet RFI.fr et sur l'application Pure Radio. Vous pouvez par exemple réécouter notre invité Afrique ce matin, Pape Ibrahima Kane, spécialiste des organisations régionales africaines. Et c'est le sujet également, le cinquantenaire de la CEDEAO, d'une émission spéciale d'appel sur l'actualité, enregistrée par Juan Gomez à Abidjan. Rendez-vous dans trois quarts d'heure, tout à l'heure après le journal de 10h heure de Paris.
RFI.
Dans l'actualité des pays africains, ce matin également le Soudan, la guerre au Soudan. On apprend que les paramilitaires FSR ont visé hier via des drones un quartier général de l'armée et un dépôt de carburant dans la ville de Kosti, dans le sud du pays. Alors que dans le même temps, le ministère de la Santé, lui, alerte sur la propagation du choléra. La maladie a fait 172 morts en une semaine. Et c'est la capitale soudanaise, Khartoum, qui concentre le plus de nouveaux cas, dit le ministère. Des combats signalés hier également au Niger, après que des djihadistes ont tué une soixantaine de soldats dimanche à Eknewan, près de la frontière avec le Mali. Hier, c'est sur le fleuve Niger qu'une patrouille fluviale a été prise à partie. On compte une quarantaine de victimes côté soldats nigériens. Ensemble, on est plus forts, plus nombreux pour faire entendre sa voix. Le Congo-Brazzaville accueille cette semaine le premier congrès des peuples autochtones et des populations locales issues des trois grands bassins forestiers de la planète, à savoir l'Amazonie, le Bornéo-Mékong et donc le bassin du Congo. L'objectif, c'est d'aboutir à une déclaration commune en amont de la COP30 qui est prévue au mois de novembre à Belém, au Brésil, à Brazzaville. La correspondance de Loïcia Martial.
Sur le site du centre de conférence, les délégations autochtones ont installé des huttes symbolisant leur mode de vie traditionnel en forêt. Dans la salle des débats, plusieurs participants portaient des tenues et coiffes traditionnelles, affirmant ainsi leur identité culturelle. Roger Simplice Kozo, représentant du réseau des populations autochtones de la République centrafricaine, a souligné l'enjeu stratégique de ce rendez-vous.
Nous sommes là pour essayer d'élaborer un plan d'action qui devrait être présenté au niveau de la COP30. Tous les peuples autochtones parlent le même langage. Et avant d'aller à cette discussion, il serait important, nous qui sommes des leaders des peuples autochtones, nous nous retrouvions pour définir ce que nous devons discuter aux partenaires et aux différents États.
Présente à l'ouverture, Rosalie Matondo, ministre congolaise de l'économie forestière, a exprimé son soutien à cette dynamique.
Oui, c'est un objectif commun, c'est-à-dire qu'on part avec une vision commune, on parle avec une position commune, c'est toujours une force.
Parmi les principales revendications exprimées lors du congrès, la reconnaissance légale des terres ancestrales, souvent spoliées, ainsi qu'un accès direct au financement destiné à la conservation, notamment ceux des organisations internationales. Les participants rappellent qu'ils sont les premiers gardiens des forêts qu'il protège depuis des générations. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
RFI, 9h39 à Windhoek en Namibie, où le 28 mai est désormais un jour férié. Une minute de silence, un discours du président et une veillée à la bougie sont prévues ce mercredi, alors que pour la première fois, le pays commémore officiellement le génocide des Nama et des Herero au début du XXe siècle par l'armée coloniale allemande. Entre 1904 et 1908, environ 80% des communautés Herero et la moitié des Nama ont été tués pour ce qui est aujourd'hui considéré comme le premier génocide du XXe siècle. Considérations historiques et mémorielles également au Mozambique. Les autorités de Maputo souhaitent se lancer dans la quête de la restitution des œuvres d'art pillées pendant la colonisation. C'est ce qu'a annoncé cette semaine la ministre de la Culture du Mozambique, alors que le pays s'apprête à célébrer dans un mois le 50e anniversaire de son indépendance. Et la première étape, c'est de faire l'inventaire des biens et des œuvres spoliées. Gaël Lalex.
D'après la ministre mozambicaine de la Culture, au moins 800 œuvres d'art ou objets patrimoniaux ont été pillés durant la colonisation. Un certain nombre ont été exposés dans des musées au Portugal, mais aussi dans le reste de l'Europe. D'après le ministère, ce travail d'inventaire se fait en collaboration avec l'UNESCO et plusieurs pays de l'Union européenne. Le caractère sensible de cette question est reconnu, a déclaré la ministre des Affaires étrangères, Maria Manuela Lucas, car elle implique également des réparations. Pour l'heure, le Mozambique, comme les autres pays africains lusophones, n'a pas encore fait la demande officielle au Portugal de récupérer ses œuvres. En 2020, une proposition de loi pour la restitution des objets coloniaux avait été rejetée par le Parlement portugais. Deux ans plus tard, néanmoins, le ministère portugais de la Culture a annoncé avoir mis en place une commission pour en faire l'inventaire. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas combien d'objets pillés détient le Portugal. En 2020, le directeur de la Société de géographie de Lisbonne estimait que son institution en possédait au moins 15 000. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Et à Maputo, au Mozambique, il est maintenant 9h42. Vous retrouvez tout de suite Andréane Mellard pour la suite d'RFI Matin.